Dans cette séquence, nous allons poser la question de l'avenir des petites villes. Est-ce qu'elles sont condamnées, compte tenu des modalités d'évolution des hiérarchies urbaines dont nous avons déjà parlé, puisque nous avons constaté que les inégalités de taille dans un système de ville avaient tendance à se renforcer au cours du temps historique, donc en entraînant avec elles tous les attributs quantitatifs et qualitatifs que nous avons répertoriés, qui sont associés à la taille des villes. En France, lorsque on regarde l'évolution séculaire de la pente de la loi de Zipf, qui mesure l'inégalité des tailles de villes, si on se contente de la mesurer sur les agglomérations urbaines, courbe du bas sur le graphique, on a l'impression qu'elle a plafonné dans les années 70 et 80 et que les inégalités de taille ne se creusent plus. En fait, c'est faux, puisque la courbe du haut qui est mesurée sur les aires urbaines, donc sur les aires définies par les navettes domicile-travail, nous montre que la tendance à la hiérarchisation du système se poursuit bel et bien jusqu'à l'époque actuelle. Lorsque nous avons observé l'évolution des villes européennes sur le long terme, depuis l'époque de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, vous le voyez sur les coefficients en rouge qui correspondent à cette pente de la loi de Zipf, nous avons également une concentration croissante qui accompagne le développement du nombre et de la taille des villes. En fait, quel que soit le système de ville que l'on considère, ici quatre exemples, Inde, Europe, États-Unis, Afrique du Sud, nous avons également au cours du temps des coefficients qui ont tendance à augmenter et qui montrent que les écarts de taille s'accentuent entre grandes et petites villes. Et lorsque nous utilisons le modèle de Gibra comme référence pour formaliser la croissance urbaine, donc selon des modalités aléatoires de distribution de cette croissance, eh bien, nous voyons qu'en réalité, les inégalités qui sont engendrées par l'évolution historique sont toujours plus grandes que celles qui sont prévues par le simple modèle statistique. Donc, en fait, cela, nous l'expliquons par deux modalités de concentration hiérarchique, deux processus qui se combinent l'un à l'autre pour accentuer les inégalités de taille. Un premier processus serait ce qu'on pourrait appeler une métropolisation par le haut, puisque la diffusion hiérarchique des innovations donne un avantage de croissance au départ, au début de chaque cycle d'innovation, aux plus grandes villes qui sont les plus aptes à le capter parce qu'elles ont des populations plus qualifiées, davantage de capital prêt à s'investir, une plus grande diversité fonctionnelle qui leur permet d'acclimater plus rapidement les innovations. Et donc, dans la première phase de diffusion de chaque cycle, eh bien, nous avons des grandes villes qui croissent un peu plus vite que les autres. Ce processus de métropolisation se traduit sur le long terme par la croissance plus forte des grandes villes que celle du système auquel elles appartiennent. Et nous avons pu l'observer historiquement avec donc des coefficients d'allométrie entre la population de la ville grand P et la population de leur système national PU, qui à chaque date donc sont comparés et qui n'évoluent pas proportionnellement, mais avec toujours un coefficient qui avantage la grande ville. Vous voyez que tous les exposants tendent à être supérieurs à 1, qu'on considère Londres ou Paris sur le long terme, ou les quatre grandes métropoles indiennes par rapport au reste du système urbain. À côté de ce processus qui concentre la croissance dans le haut de la hiérarchie urbaine, on a également un second processus qu'on pourrait appeler une simplification par le bas et qui est une tendance à la croissance moins rapide des petites villes, parce qu'elles se trouvent court-circuitées pour l'exercice de certaines de leurs fonctions par les plus grandes villes qui, au cours du temps, étendent leur aire d'influence, leur zone de marché, leur rayon d'action. Cela tient à ce qu'on appelle la compression de l'espace-temps, qui est un processus géographique de l'évolution des distances relatives dues à l'accélération de la vitesse des transports. Si on représentait à une échelle de temps la carte de l'Europe en 1200, donc au Moyen Âge sur la carte du haut, et à la même échelle de temps à l'époque actuelle tout en bas où on n'a plus qu'une tête d'épingle, vous verriez ainsi exprimé sommairement, mais de façon extrêmement expressive, l'effet sur les interactions spatiales, sur les mouvements dans l'espace géographique de cette accélération considérable des transports, encore accélérée depuis le début du 19e siècle. En fait, elle se retrouve, les effets de cette accélération de la circulation se retrouvent dans l'organisation spatiale des systèmes de ville, puisque nous avons là une différence nette dans les mesures de l'inégalité de la taille des villes, le coefficient alpha, la pente de la Loire-Entaille, en rouge ici pour les États-Unis et l'Afrique du Sud, qui sont des systèmes établis à partir du moment où existent les chemins de fer, les transports motorisés. Et nous avons dans ces systèmes de villes des espacements plus importants entre les villes, de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres, alors que dans des systèmes très anciennement urbanisés, Europe, Inde, où les rapports entre les villes s'effectuaient d'abord à pied, puis à la rigueur à cheval, nous avons des espacements plus réduits, inférieurs à 20 kilomètres, et des pentes de la Loire-Entaille également moins fortes. On peut se demander si la Chine va pas apporter une forme d'urbanisation à part, dans la mesure où la pente de Zipf, qui mesure l'inégalité des tailles, y est plus faible qu'ailleurs, plus faible qu'en Inde, plus faible qu'aux États-Unis. Et en outre, elle a eu tendance à diminuer au cours des 40 dernières années, de très forte expansion urbaine, élévation du taux d'urbanisation qui a dépassé les 50% et émergence de très grandes villes. En fait, si on compare les évolutions en Chine et en Inde, vous voyez en Inde sur un siècle, on a ce parallélisme de la Loire-Entaille et l'émergence des trois ou quatre grandes métropoles actuelles, mais un coefficient, une pente de Zipf qui augmente, alors que en Chine, où l'observation statistique ne peut être conduite que sur une période plus restreinte et pour un nombre moins important de villes, donc on n'est pas absolument sûr du résultat, mais on a l'impression malgré tout d'une stabilisation au moins de l'inégalité des tailles des villes. On lit bien entendu cette forme de contrainte qui pèse sur la taille des villes et qui étire toujours plus l'éventail des tailles dans les systèmes de villes à cet effet de l'arrivée des innovations qui sont engendrées aussi par les compétitions économiques, les rivalités culturelles et sociales entre les villes et qui les conduisent à tenter de se modifier, d'adopter ces innovations telles qu'elles passent et qui peuvent les entraîner dans ce cercle vertueux de la croissance qui donc est une forme de métropolisation qui n'est pas restreinte à quelques villes mais qui concerne la dynamique de l'ensemble du système. Mais ces villes qui gardent une bonne image, si elles ont capté un certain cycle d'innovation en se spécialisant davantage, eh bien elles peuvent entrer dans un cycle de déclin que nous voyons en bas à gauche sur ce graphique, qui correspondrait aux villes des Rust Belt américaines, des villes fantômes qui ont connu un moment de croissance, une poussée de croissance rapide et qui n'ont pas ensuite continué à adopter des innovations, sauf à connaître parfois une période de restructuration, comme on a pu l'observer par exemple pour Lille, la capitale de la région du Nord, dont les infrastructures et la culture d'entreprise ont permis de rattraper une phase de déclin où l'avait entraîné la perte des activités textiles et les problèmes d'emploi du bassin minier et de la sidérurgie du Nord également. Donc, globalement, lorsque nous regardons ici la carte des aires urbaines françaises, Nous avons une dynamique d'expansion spatiale très forte qui a multiplié par 5 en 30 ans les surfaces alors que la population n'augmentait que d'une fois et demie, ce qui conduit à une certaine dilution des densités qui sont globalement divisées par 3, mais qui montre que certaines petites villes ont pu être intégrées dans ces grandes zones d'extension des dynamiques urbaines, dont nous avons ici une autre forme de représentation cartographique, simplifiée parce que lissée, on a gommé les petites inégalités locales pour permettre d'avoir une image plus lisible. Et vous voyez effectivement des sortes d'auréoles de croissance des emplois sur la période 1975-2012 autour des principaux pôles urbains, alors que, évidemment, la décroissance de l'emploi se poursuit dans ce qu'on a pu appeler la diagonale du vide qui traverse la France du nord-est au sud-ouest. En tout cas, nous avons là une illustration très claire des possibilités de redynamisation éventuelle de certaines petites villes. La probabilité la plus forte se trouve dans ces zones de croissance en périphérie des métropoles et des aires urbaines de plus grande taille. D'autres possibilités sont la découverte ou l'exploitation de spécialisations nouvelles qui peuvent faire croître à nouveau certaines petites villes. On pense au Festival du Jazz à Marciac, qui est une situation tout à fait exemplaire de redynamisation locale, mais c'est un cas isolé parmi d'autres cas beaucoup plus fréquents de diminution des populations. Et il faudrait des politiques de déconcentration du développement extrêmement suivies et volontaristes si l'on voulait faire en sorte que les plus petites villes échappent au destin qui a été celui de très nombreux villages depuis le dernier tiers du 19e siècle, où ces villages avaient connu leur maximum de population, et voient depuis non seulement la population décliner, mais aussi les fonctions élémentaires de base disparaître. Et on a toutes sortes de problèmes aujourd'hui dans les petites villes qui illustrent la difficulté d'y maintenir des commerces et des activités éducatives ou hospitalières d'un niveau suffisant pour leur population. Cette situation ne peut que s'aggraver à l'avenir, dans la mesure où, dans les pays où la démographie ne se renouvelle plus comme par le passé, c'est le cas au Japon, c'est le cas en Allemagne, on a même dans des villes de plus grande taille un début de ce qu'on appelle les shrinking cities, les villes en dépeuplement. Et donc, bien évidemment, cela risque d'affecter encore plus profondément et durablement, sauf à admettre davantage de migration, la situation de nos plus petites villes.